Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La loi de Pareto, la règle des 80-20, attribuée à Antoine Deleers et rattachée à la collection Gestion et Marketing, est un ouvrage de vulgarisation consacré à un principe classique de priorisation. La règle expose une observation fréquente, non une loi mathématique rigide d'une minorité de causes, d'efforts, de clients, de produits ou de problèmes peut produire une part majoritaire des effets. Dans un cadre de gestion et de marketing, son intérêt est d'aider à repérer les éléments qui pèsent réellement sur le chiffre d'affaires, les coûts, la qualité ou le temps de travail. Le livre se situe donc à l'intersection de l'analyse opérationnelle et de la décision managériale. Faute de documentation détaillée et vérifiable sur son sommaire, il convient de ne pas lui attribuer de méthode ou d'exemples précis non confirmés. Son sujet clairement identifiable permet néanmoins d'en analyser les enjeux essentiels, mesurer une concentration, classer les priorités, orienter les ressources et éviter les simplifications abusives. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le ratio 80-20 comme repère de concentration plutôt que comme formule exacte. Le cœur du sujet est l'idée qu'une distribution peut être très inégale. Le raccourci 80-20 signifie qu'une faible proportion des causes contribue souvent à une forte proportion des résultats. Dans une entreprise, cela peut concerner les clients qui apportent la majorité de la marge, les références qui concentrent les ventes, les défauts responsables de la plupart des réclamations ou les tâches ayant le plus d'effet sur un objectif. L'utilité du principe ne dépend pas de l'obtention exacte des nombres 80 et 20. Une répartition de 70 et 30 ou de 90 et 10 peut transmettre le même enseignement, les contributions ne sont pas uniformes. Cette nuance est décisive pour une lecture rigoureuse. Le ratio ne dispense ni de collecter des données, ni de définir ce qui est mesuré. Il sert de question initiale, quelles causes produisent la part dominante de l'effet étudié. Dans un livre orienté gestion et marketing, cette question conduit à remplacer une attention égale portée à tout par une analyse des concentrations de valeur. Elle invite aussi à distinguer volume, chiffre d'affaires, marge, fidélité et risque, car le petit groupe le plus visible n'est pas nécessairement celui qui crée le plus de valeur économique. Deuxièmement, prioriser les ressources autour des clients et offres à forte contribution appliquées au marketing. La logique de Pareto conduit à examiner la contribution réelle des segments de clientèle et des offres. Une entreprise peut avoir beaucoup de clients, de produits et de canaux, sans que chacun apporte une valeur comparable. L'analyse vise alors à classer les éléments par chiffre d'affaires, marge, fréquence d'achat, coût de service ou potentiel de rétention. Ce classement permet de voir si une minorité de comptes ou de gamme soutient une grande part du résultat. La conséquence pratique n'est pas de servir mécaniquement tous les autres clients moins bien. Il s'agit plutôt d'adapter l'intensité de l'effort suivi commercial renforcé pour les comptes stratégiques, offre plus pertinente, amélioration de la disponibilité des produits essentiels et réduction des dépenses peu rentables. Le principe aide également à éviter une segmentation uniquement démographique. Un segment utile est celui dont le comportement et la contribution justifient une action différenciée. Cette approche doit toutefois intégrer la dépendance si quelques clients concentrent les revenus. Leur perte peut fragiliser l'entreprise. La priorisation doit donc être accompagnée de mesures de fidélisation, de diversification raisonnée et d'une surveillance de la rentabilité plutôt que d'une simple concentration commerciale. Troisièmement, mesurer avant d'agir grâce au classement des causes et des résultats. La règle des 80-20 est d'abord un outil de diagnostic. Pour l'employer sérieusement, il faut formuler un problème précis, réunir des données comparables, classer les causes par contribution décroissante et calculer leur poids cumulé. Une entreprise qui cherche à réduire les retours ne doit pas additionner indistinctement les plaintes, elle peut distinguer les types de défauts, les fournisseurs, les produits, les périodes ou les étapes du parcours client. Le classement révèle alors les catégories dont le traitement peut produire l'amélioration la plus substantielle. Cette démarche est proche de l'analyse de Pareto, utilisée en qualité et en gestion des opérations. Elle transforme une impression générale, comme trop de problèmes ou trop de dépenses, en ordre de priorité vérifiable. Sa valeur provient de la comparaison entre efforts requis et effets attendus. Corriger une cause fréquente mais facile à traiter peut être plus pertinent que traiter une cause rare et coûteuse. Inversement, une cause peu fréquente peut exiger une action immédiate si son impact financier, réglementaire ou humain est majeur. Le principe ne remplace donc pas le jugement. Il organise l'information afin que les décisions ne reposent pas seulement sur l'urgence perçue, les habitudes ou les demandes les plus bruyantes. Quatrièmement, réduire la dispersion du temps de travail sans abandonner les activités nécessaires. Dans la gestion quotidienne, le principe de Pareto propose de distinguer les activités décisives des activités d'entretien. Certaines tâches contribuent directement à la vente, à la résolution d'un problème majeur, à une négociation importante ou à la production d'un livrable critique. D'autres restent nécessaires, mais ont un effet plus indirect ou plus limité sur le résultat prioritaire. Le bénéfice de cette distinction est d'affecter les meilleures plages de concentration aux actions qui comptent le plus, au lieu de les laisser absorber par les sollicitations, les rapports répétitifs ou les micro-décisions. Une application responsable implique néanmoins de ne pas confondre faible impact immédiat et inutilité. La conformité, la maintenance, le suivi administratif, la formation ou la prévention des risques peuvent ne pas apparaître parmi les premières sources de résultats à court terme, tout en restant indispensables. La réponse appropriée consiste souvent à simplifier, automatiser, standardiser ou déléguer ces activités lorsque cela est possible. Le temps ainsi dégagé peut être réinvesti dans les priorités clairement identifiées. Dans ce sens, la règle des 80-20 n'est pas une invitation à faire moins sans discernement. Elle fournit un critère pour mieux distribuer l'attention, tout en maintenant les fonctions de base qui permettent à une organisation de fonctionner durablement. En dernier lieu, les limites du principe face aux changements de marché et aux enjeux non quantifiés. Le principal risque d'une lecture trop rapide est de traiter le ratio 80-20 comme une vérité universelle. Les répartitions varient selon la période, le marché, la mesure retenue et la qualité des données. Un canal marketing rentable aujourd'hui peut s'essouffler demain. Un client majeur peut devenir moins profitable après une hausse des coûts de service. Et une référence marginale peut devenir stratégique dans une nouvelle offre. Une analyse utile doit donc être révisée à intervalles adaptés au rythme de l'activité. Elle doit aussi tenir compte des effets de long terme. Les petits clients peuvent constituer un vivier de croissance, les produits peu vendus peuvent compléter une gamme et les actions de marque peuvent influencer des ventes difficiles à attribuer directement. Par ailleurs, certains enjeux ne doivent pas être hiérarchisés uniquement par fréquence ou par revenu. Un incident rare de sécurité, une obligation légale ou une atteinte à la réputation peut justifier une attention élevée malgré son poids statistique faible. La vraie leçon du principe est donc méthodologique: rechercher les leviers dominants, puis vérifier que cette concentration ne masque ni une vulnérabilité ni un devoir essentiel. Cette réserve donne à l'approche une portée plus solide que la simple recherche de gains rapides. En conclusion, la loi de Pareto, la règle des 80-20 s'adresse surtout aux dirigeants de petites structures, responsables commerciaux, professionnels du marketing, chefs de projet et personnes qui doivent arbitrer entre de nombreuses actions concurrentes. Son intérêt pratique réside dans le déplacement du regard au lieu de répartir uniformément le budget, le temps et l'attention. Le lecteur est invité à chercher les sources principales de revenus, de coûts, de défauts ou de charges de travail. Cette grille peut améliorer la qualité des priorités, à condition de s'appuyer sur des données pertinentes et de distinguer la valeur, le volume et le risque. Elle offre aussi un bénéfice intellectuel important. Elle rappelle que les phénomènes économiques et organisationnels sont souvent concentrés et que l'égalité de traitement n'est pas toujours synonyme de bonne gestion. Par rapport à des ouvrages de productivité généraliste, son positionnement est plus directement lié à l'allocation des ressources et à l'analyse de résultats en entreprise. Par rapport aux manuels statistiques ou aux traités de stratégie plus vastes, son sujet est plus resserré et plus immédiatement mobilisable. La différenciation attendue tient ainsi à la présentation accessible d'un principe transversal, applicable à la fois aux clients, aux ventes, aux problèmes de qualité et aux tâches. Sa meilleure utilisation consiste à en faire un cadre de questionnement et de mesure, non une recette automatique fondée sur un pourcentage figé. Si vous souhaitez soutenir Antoine Deleurs, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.